Donc, avant tout ça, les rencontres, pour moi, c'est un grand plaisir d'être là parmi vous et de vous voir ici. C'est aussi des rencontres, donc ce sont vos journées et j'espère que vous pourrez intervenir, que vous pourrez échanger. N'hésitez pas à nous interroger, à nous vous exprimer, à nous dire on a besoin de ça, on a besoin d'autres choses. On fait comme ça dans notre établissement, ça marche ou ça marche pas. Et j'aimerais qu'à la fin des journées, il y a peut-être des nouvelles pistes à creuser pour nous à l'ENSIB, pour Formist, peut-être avec d'autres partenaires, avec vous les formateurs. Voilà, c'est vraiment moi, je me suis dit, bon. On va essayer de faire des rencontres, des échanges. Alors c'est toujours un peu artificiel, hein, les échanges, mais surtout en amphithéâtre, hein, je le sais. Mais de faire émerger des choses si on peut, quoi. Voilà. Donc on va commencer pour la première intervention. C'est moi qui cause, hein, donc je ne sais pas si tu... Non, tu as une autre réunion. Ok, il me semblait bien. On va commencer par la première intervention. Non, c'est... Voilà, office, je n'aime pas. Donc, c'est moi qui vais partir. Et je vais me baser sur une communication que j'ai déjà faite à Bordeaux, en fait, en 2009, mais que j'ai complétée, que j'ai mise à jour. Mon objectif, c'est un peu de retracer, je ne vais pas parler de l'histoire de l'IST, ce n'est pas vraiment ça, mais un petit peu un historique rapide, un peu subjectif, des grandes lignes de la formation des usagers à travers plusieurs axes. À travers des axes qui seront abordés différemment, les technologies, les évolutions de l'université, ce qui se passe dans les bibliothèques, bien sûr, et la formation. Et là, je parle de formation documentaire exprès, parce que le vocabulaire lui-même a évolué. Mais mon idée, c'est que la formation à l'information, ou formation documentaire, est quand même très articulée aux technologies en particulier. Donc, c'est pour ça que je vais retracer un petit peu. À partir des années 70, rassurez-vous, ça ira assez vite hein, pour dire ça. Mais je vais repartir là-dessus pour voir un peu les évolutions. Je crois que c'est important pour la journée. Et là, vous avez les grandes années, les grandes périodes que j'ai découpées, que j'ai renommées. On peut peut-être leur donner d'autres noms. Donc les années 70, c'est ce que j'ai appelé la phase de réflexion. C'est le tout début d'Internet, si vous vous rappelez bien. À l'époque, on n'en en parlait pas du tout, mais c'est vraiment la date de naissance d'Internet, c'est 69. C'est une époque où les ordinateurs sont encore très, très encombrants, mais c'est une époque où on peut commencer à les interroger en ligne. Et donc, il faut vous rappeler que les bibliothécaires, c'est le bibliothécaire qui interrogeait l'ordinateur en ligne pour interroger les bases de données, hein. On avait des langages un peu complexe, que seul le bibliothécaire ou documentaliste était capable de maîtriser. Et il n'y avait pas beaucoup de bases de données, il y en avait à peu près 300 dans les années 70. C'était à peu près l'ordre d'idée, hein, pour vous redonner un peu un panorama. Et donc une offre rare, une interrogation complexe pour tout l'aspect documentaire, recherche d'informations. À cette époque, les bibliothécaires ne pensent pas vraiment à former les usagers. Parce que les usagers, c'est... Les héritiers, on pense que ça va de soi, ils connaissent les bibliothèques, ils n'ont pas besoin d'être formés spécifiquement parce que les outils sont faciles, c'est les catalogues, c'est les fiches, etc. Et normalement, il n'y a pas vraiment de formation d'usagers. Et les bibliothèques françaises sont très axées sur les collections à l'époque, hein. On est quand même dans une approche très française où c'est la collection qui prime et pas les services comme dans les bibliothèques anglo-saxonne. On trouve quand même des traces d'une enquête en 1974 qui recense 9 bibliothèques dans lesquelles il y a des formations d'étudiants. Bon, dire, c'est vraiment le début. C'est pour ça que j'appelle la phase de réflexion. Une phase de réflexion générale, parce que c'est à cette période qu'on va voir apparaître des tas d'instances en IST. Formiste étant peut-être une des dernières instances en IST avec le Formiste, la formation scientifique et technique. Donc, Bureau national d'information scientifique et technique, mission interministérielle d'information scientifique et technique. On passe aux années 80. La DBMIS, direction des musées de l'information scientifique et technique, qui rassemble enfin les bibliothèques et l'IST, parce qu'avant c'était séparé. On va voir apparaître les cadistes, les urfistes en 82, le sioniste, l'iniste. Et tout ça est vraiment ramassé dans ces années-là. Donc c'est vraiment la période de l'IST, période où les ordinateurs deviennent des personnels computers, des ordinateurs personnels, des PC, et où l'interrogation de bases de données se fait toujours en ligne, toujours par le bibliothécaire qui reçoit des listings pour leurs utilisateurs. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous, bien sûr, qui ont connu ça. On interrogeait en ligne, on recevait les listings, on faisait payer l'étudiant en fonction du temps de communication passé, du nombre de références, etc. C'est le véritable début de la formation des usagers dans les années 80. Des expérimentations se développent avec les grandes écoles. Le ministère de l'Éducation finance des expériences. On en trouve les rapports qui ont été écrits par exemple, Daniel Bretel-Desmazières, qui a fait beaucoup de travail autour de ça dans les grandes écoles. C'était vraiment autour de ces établissements-là que ça s'est développé à l'origine. Et les années 80, la formation phare, c'est vraiment l'expérience de Paris 8, qui, dans le cadre des langages fondamentaux qui sont prévus par la loi Savary, côté université, sont mis en place par Claire Panigel à l'URFIST de Paris et Alain Coulon, qui était professeur à Paris 8, donc, qui est, anecdote, maintenant chef du service de la stratégie de l'enseignement supérieur de l'insertion professionnelle au ministère, donc avec dans un service en dessous, comme adjoint Claude Joly, qui était l'ancien responsable de la SDBIS. On retrouve toujours encore les mêmes personnes. Donc ils ont fait cette formation qui était mise en place, c'était une UE de 36 heures à destination des étudiants de DEUG, qui a beaucoup marqué parce que c'était la première formation qui aura donné lieu à une évaluation des résultats des étudiants, qui seront publiés un petit peu après. Au niveau technologique, les années 80, c'est le Minitel. Donc ça fait rire, quand je revois ce Minitel, c'est rigolo. Ça a été très bien pour la consultation, on a consulté des bases de données par cet outil-là à une époque, pour la localisation des références, des ressources. Ça a aussi un peu freiné le développement en France d'Internet, puisqu'on avait le Minitel, on allait un peu moins vite sur Internet. C'est aussi l'apparition du CD-ROM en 1984. Donc vous voyez, je suis allée très vite sur les années 70-80. Est-ce que, a priori, j'oublie quelque chose d'important ? Ça vous semble... ça va ? N'hésitez pas, hein, si... Ah oui, mais bon, n'hésitez pas. Hein. On passe aux années 90, que je vais appeler les années de l'institutionnalisation. Déjà, dès le début, c'est une évolution très rapide des technologies, avec le CD-ROM, donc, qui se développe dans les bibliothèques. Et ce qui est important dans le CD-ROM, c'est que, par son système d'interrogation, on n'a plus besoin d'avoir recours directement au bibliothécaire qui va interroger l'ordinateur avec cette syntaxe compliquée. Donc, le lecteur devient autonome, l'usager peut se mettre sur le CD-ROM et interroger avec des interfaces qui facilitent l'interrogation, interroger lui-même la base de données, 9000 bases de données en 1995. Elles ne sont pas toutes, c'est pas toutes des bases documentaires, mais il y en a à peu près 9000 dans cette période-là. Donc le temps à passer à la recherche n'est plus facturé, et le bibliothécaire vient simplement pour aider à l'interrogation et former l'usager. Il y a vraiment un besoin de formation en CD-ROM qui se développe, et je pense que c'est un peu à cause de ça que la formation va vraiment se développer dans les bibliothèques, la formation des étudiants, la formation. Il y a bien sûr aussi Internet qui va se développer, donc il est né en 69, on le rappelle, mais c'est vraiment dans les débuts des années 90 que Internet se développe en bibliothèque. Je vous rappelle que peut-être 93-94, dans les bibliothèques, on essaye d'accéder, de se connecter à Internet. Ensuite, on va essayer d'avoir un site web. Là, c'est une page d'Internet Archive qui illustre pour la BPI. Vous voyez que le premier site archivé par Internet Archive, c'est en octobre 97 pour la BPI et c'est en 96 pour la BNF. Donc, premier site de la BNF, 1996. 1997, vous voyez. Donc, et c'est les bibliothèques les plus importantes. Donc, c'est parmi les premières à avoir des sites web. Donc, fin des années 90 seulement. On a l'impression que c'est pas très loin, mais pourtant, c'est vraiment le début des sites web des bibliothèques. Donc, accéder à Internet, avoir un site. Ensuite, ça va être qu'est-ce qu'on met sur les sites web, quels services, quelles ressources on donne, à quels services et ressources on donne accès aux sites web. Le site de l'ENSIB de l'époque, pour ceux qui ont consulté l'ENSIB hier, nous venons de changer de site web tout juste hier. Donc il y a un nouveau, tout beau, tout neuf site web depuis une demi-journée à peine. Donc on en est à notre quatrième ou cinquième site web, hein, je peux compter, plus des petites modifications. Donc les années 90, l'évolution technologique du CD-ROM à l'Internet, les évolutions des statuts. Puisque c'est à cette époque-là que sont créés l'ENSIB et l'Institut de formation des bibliothécaires. Donc l'ENSIB qui fête ses 20 ans cette année, bien sûr. Hein. Et surtout, avec cette évolution-là, avec ces créations d'écoles ou modifications pour l'ENSIB, hein, qui changent simplement, c'est aussi un changement des statuts des conservateurs et des bibliothécaires. Et dans ces statuts, la mission de formation est beaucoup plus ancrée et est écrite. Les conservateurs participent à la formation des professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques et de la documentation. Les bibliothécaires concourent également aux tâches d'animation et de formation. Donc vous pouvez aller revoir les décrets. C'est une période où on constate que l'université est devenue université de masse avec énormément d'échecs universitaires et dont sont mises en place des réformes. Donc je cite essentiellement la réforme Bérou, puisque c'est elle qui met en place l'unité d'enseignement de méthodologie du travail universitaire. Et ensuite va venir le LMD. Hein. Donc ces poids institutionnels au niveau de l'université vont asseoir les formations. Et on va voir un déplacement des formations. Donc en 98, moi j'arrivais à l'ENSIB pour formiste, hein, ça c'est d'être, j'ai mes repères très personnels, mais bon, ils servent à ça. On a fait une enquête. Dans cette enquête, on voyait que la moitié à peu près des bibliothèques universitaires faisaient des formations. Surtout, ce qui est important, c'est de retenir que les formations à cette période-là étaient, avant la MTU, hein, j'entends bien, étaient essentiellement orientées vers les étudiants de DEA ou les thésards. Donc les étudiants qui avaient à mener un travail de recherche personnelle et les étudiants de première année étaient concernés par seulement 20% des formations. Là, ça va se déplacer dans les années qui vont suivre après avec la MTU. Les années 90, toujours, c'est aussi un soutien très fort du ministère. Donc la sous-direction des bibliothèques, la SDBIS, a vraiment une volonté de faire avancer ce point. Et ça se développe donc à travers des appels d'offres auprès des universités. Donc les bibliothèques répondent aussi à ces appels d'offres en 92, en 95. Ça se développe à travers les contrats quadriennaux. Et dans les contrats quadriennaux, la plupart des universités vont axer sur la formation des usagers, parce que c'est ce qui est demandé par le ministère. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort autour de ça. Il y a un groupe de travail en 97-98 qui va donc arriver au développement d'un guide pour la formation, la mise en place des formations. Donc former les étudiants en maîtrise de l'information, on le trouve maintenant, c'est une pièce de musée. J'en ai encore quelques exemplaires que je garde, parce que c'est presque des archives. Il existe encore en ligne, hein, je crois, j'ose espérer, qu'il est toujours en ligne. Il y a des choses qui sont quand même un peu dépassées, mais d'autres qui ne le sont pas. Et donc c'était un guide qui avait été conçu pour aider à mettre en place une formation dans un établissement. Et il y a les débuts de formistes en 99, comme l'a rappelé Anne-Marie tout à l'heure. Voilà. Donc formistes, c'était à l'origine, au tout début, quand on regarde les premiers textes qui parlent de formistes, l'objectif a été de regrouper les ressources pédagogiques sur les outils documentaires, les ressources pédagogiques des urfistes, puisque à l'époque, au tout début, toutes les urfistes n'avaient pas encore de site web. Bien sûr, maintenant, c'est plus du tout le cas. Et aussi les ressources pédagogiques des établissements des SCD. L'idée était de mutualiser ces ressources pour éviter qu'un établissement ne refasse une ressource déjà faite par un autre établissement. Donc la mutualisation et l'évaluation, bien sûr, de ces ressources pour donner des ressources de qualité. Et ça a longtemps fonctionné comme ça. Hein. Donc c'est une période où il y a beaucoup de ressources pédagogiques par les universités qui se développent. Je vais faire un petit clin d'œil à Pierre-Yves qui va reconnaître DiliWeb, donc Pierre-Yves Cacher qui intervient tout à l'heure, qui avait fait, c'était un des premiers tutoriels, Pierre-Yves, je crois. Hein. DiliWeb a été un des tout premiers tutoriels mis en place sur la recherche en information avec Maître Dilimoto. Je m'en rappelle le nom du petit bonhomme que vous voyez à votre droite. Donc, à notre écran.
Ouais,
et
on a essayé de relier, je vais justement revenir là-dessus, la recherche et la production d'informations.
Ouais, déjà, ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez tous entendu Pierre-Yves rappeler, ça avait été travaillé avec des étudiants, je me rappelle, ouais, il y avait des projets, parce que nous, on avait suivi d'assez près, hein, DiliWeb, et c'était la recherche et la production d'informations. C'est quelque chose qui s'est développé, hein, de toute façon, la production d'informations. Il y avait d'autres tutoriels. Alors là, mon écran ne les fait pas passer, mais c'était l'INSA qui... j'ai la copie d'écran, mais elle ne s'affiche pas. Qui faisait Pratsist sur le style des jeux de rôle à la recherche de l'information. Cerise, qui date de cette époque-là, qui est encore très utilisée. Et les premiers référentiels. Forcic à l'URFIS de Toulouse, et puis surtout un référentiel très important, donc l'ACRL, l'Association of College and Research Library, qui fait le premier référentiel de compétences dédié à l'information literacy. Donc ça se développe beaucoup, les ressources, les contenus, les référentiels et tout ça. Les années 90, toujours dans le cadre de l'institutionnalisation, moi, s'il y a une formation que je retiens, c'est celle de Paris 3. Paris 3, parce que c'est une formation où il y avait une professeure agrégée, et un conservateur qui travaillait vraiment en binôme. Donc, c'était vraiment la collaboration avec les enseignants pour la mise en place de toutes les formations dans l'université. Et la publication du fameux article d'Alain Coulon sur la réussite des étudiants liés à l'inscription dans une formation documentaire. Et il prouvait que les étudiants qui avaient suivi le DEUG en DEUG, l'option recherche DEUG, réussissaient mieux leur licence que les autres. Donc ça a pas mal servi. À cette époque-là, 57% des formations en 2000 sont inscrites dans les cursus. Donc on a pris 20% en gros. Donc on est vraiment beaucoup mieux inscrit à l'université dans les maquettes. Hein. Il y a tout un travail qui s'est développé. Avant de passer aux années 2000, est-ce que vous voyez des grosses choses, des points oubliés ? Je vous fais travailler aussi, non ? Non, ça va. Je vous dis, c'est très pointilliste. Je peux oublier des choses importantes, mais bon, c'est un peu mon sentiment. Les années 2000, au niveau technologique, on voit apparaître le gros méchant bêta Google, qui nous poursuit toujours. Moi, je l'aime bien, Google. Hein. J'ai sa peluche dans mon bureau. J'aurais pu l'amener, une petite peluche verte. Mais en 98, naissance de Google. Donc au début, on ne va pas trop s'en apercevoir. Simplement, sa simplicité dans l'interface, son mode de fonctionnement, ça va contaminer les outils de recherche d'informations. Et maintenant, Google, c'est ce qu'on appelle un peu l'entonnoir de l'information. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, hein, c'est Gabriel. Hein, okay. Et Brigitte Simonneau, je ne me rappelais plus le nom de la deuxième auteure. Je sais qu'il y en a deux. Donc Gabriel Galzo et Brigitte Simonneau qui ont fait l'entonnoir de l'information. Et c'est vrai qu'à partir de là, on va s'orienter vers une recherche floue. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la recherche documentaire bien structurée à travers des champs, etc., où on cherche. On peut trouver précisément ce qu'on veut dans des bases de données documentaires structurées, et là, on passe à une recherche floue. On peut vraiment plus vraiment trouver par auteur et tout ça. Et les outils d'interrogation, donc, tapent dans des outils qui ne sont plus, dans des réservoirs qui ne sont plus structurés, des recherches, enfin, dans du texte intégral qui n'est pas typé. Donc, ça va changer la recherche parce que les usagers, ils ont l'habitude de Google et ils demandent de plus en plus ça dans nos outils. Ils ont un peu de mal sur nos bases documentaires, hein, qui elles-mêmes s'adaptent et vont vers ça, surtout. Donc, les années 2000, on a une évolution des interfaces avec cette domination du texte intégral, ça commence à apparaître. Hein. C'est pas le début des années 2000. Je vais peut-être parler d'ailleurs de 2000-2008 parce qu'on va voir que je trouve que vers 2008, il y a encore un changement. C'est pas en 2010, c'est en 2008. En 2001, il y a plus de 15 000 bases de données. Ça reste à peu près stable. On est parti de 300, on a plus de 15 000. Les CD-ROM disparaissent peu à peu. C'est remplacé par un accès direct par Internet aux ressources documentaires. Donc les bases de données, mais les réservoirs de texte intégral, avec l'abonnement aux revues électroniques, l'abonnement aux bases et tout ça. Et les bouquets et tout, de revues et tout, de ressources électroniques. Hein. Donc les bibliothèques françaises s'orientent vers une approche plus service à partir de là. On était dans une approche collection. Là, on tourne vers les services. On s'oriente vers les services. On parle plus vraiment de recherche documentaire, on parle pas de méthodologie documentaire, on parle de formation à la maîtrise de l'information, formation à l'information, information literacy. Ce fameux terme qu'on n'arrive pas à traduire, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous chez les Anglais pour définir le concept. Avec des nouvelles ressources qui se développent, des référentiels comme métaphores. Un référentiel de formateurs érudistes qui avait été développé à Grenoble, référentiel de compétences documentaires pour les métiers d'étudiants. Frédéric, je ne te vois plus. Voilà. Ça devient quoi, érudiste? Voilà. Non, mais c'est comme tous les projets, hein. C'est comme tous les projets, ça dure une époque et voilà. Maintenant, il y en a d'autres, hein, comme ça, presque tous ceux que je cite sont tournés. Érudit, c'était un très beau projet pour ceux qui ne l'ont pas connu, hein, où c'était à partir des compétences que vous voyez, commencer une recherche sélectionnée, c'était définir les compétences et c'était vraiment un référentiel de compétences, qu'est-ce qu'un étudiant devait savoir avec des liens vers des ressources derrière. Les Québécois sortent une petite brochure que j'aime bien parce qu'elle est orientée vers les enseignants, pas vers les étudiants, mais essayer de convaincre les enseignants. Comment faire? C'est vraiment l'approche canadienne. Hein. C'est pas. Je vois Françoise Dayan, j'ai dit oui, hein, c'est la Bible, voilà. Celle-là, elle est. Moi, je suis assez d'accord. Elle est très bien. C'est pas du tout la même manière que nous en France. Hein. Ils s'orientent autrement. C'est un autre regard, une autre manière de faire. Les Canadiens, à ce moment-là, en 2005, traduisent le référentiel de la CRL qu'on a vu tout à l'heure. Alors, nous, formistes, on continue d'évaluer à ce moment-là les ressources pédagogiques, mais on a un problème quand même sur les ressources. C'est que, en fait, les établissements n'en font pas tant que ça, et surtout, ils les estiment pas d'assez bonne qualité pour les proposer aux formistes au niveau national, surtout qu'on les évalue. Donc, on a très peu de ressources qui nous sont réellement proposées. Parce que les documents sont jamais vraiment finis, etc. À part Françoise, il y en a d'autres qui proposent et qui continuent. Mais c'est assez difficile de recenser les ressources pédagogiques parce que, on nous les propose peu. Encore une enquête, parce que je suis destinée à faire tout le temps des enquêtes. C'est l'ADBU qui, en 2005, fait une enquête sur la formation à la méthodologie documentaire et qui nous demande, de l'analyser. Donc, la copie d'écran, on voit Marie-Annick Cazot qui était côté ADBU. On voit, j'ai pas voulu mettre plus en avant, c'est juste une copie du BBF. Hein. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on voit que les formations se sont vraiment institutionnalisées. Donc, 69% pratiquement des formations dans les maquettes. Ce qui montre vraiment le poids des textes, la réforme Bérou, le LMD, le C2I aussi. Et surtout, les formations sont beaucoup plus courtes. On a vraiment une baisse du nombre d'heures consacrées. Avant, en 98, les formations duraient 61% des formations duraient plus de 20 heures. Formation au DEA et aux étudiants doctorants, je vous rappelle. 2005, 50% des formations étudiants première année essentiellement durent moins de 5 heures. Il y a eu vraiment un déplacement vers les premiers cycles, enfin la licence, hein, puisqu'on est dans le cadre de la licence. 13% des étudiants formés sur l'ensemble des étudiants à peu près. Suite à cette enquête, on va mettre en place avec la DBU Syfodoc, qui voulait répertorier les formations, mais qui n'a pas pu être maintenue, puis qui était peu utilisée. Donc, il faudrait peut-être revoir, repenser. On en reparlera peut-être avec Pierry, on verra. Enfin, c'était un partenariat ADBU Formiste, hein, sur ce projet. À ce moment-là, il y a vraiment une multiplication des acteurs. Il y a eu par exemple un campus numérique qui s'est arrêté en 2005 quand il n'y a plus les financements des campus numériques. C'était RéseauDoc qui était maintenu par Paris-Nanterre, je crois, Paris 10, c'est ça, c'est Paris-Nanterre, et qui avait quand même la qualité d'impliquer les enseignants d'université puisque c'était eux qui portaient le projet. Et les bibliothèques étaient associées, mais c'était les enseignants qui portaient le projet. Ils ont recensé 19 ressources en tout sur le campus numérique. Après, on va partir vers les universités numériques, vers autre chose. Le ministère va changer d'orientation au niveau de la mutualisation des ressources pédagogiques. Au niveau des acteurs, un réseau qui essaye de se construire en Europe, le réseau ENIL, avec une Italienne, mais qui n'a pas du tout pris. Un réseau très actif dans le nord de l'Europe, Nord Infolit. Et puis surtout la création d'une section à l'IFLA en 2003 sur l'information literacy. Donc vous voyez, ça se développe aussi au niveau international. Et cette section à l'IFLA met en place un réservoir, enfin un site qui s'appelle Infolit Global. Bon, ça c'est la section. Et Infolit Global, je ne sais plus si s'il n'a pas changé de tête depuis. J'ai peut-être oublié de faire une copie d'écran. Ça, j'ai repris une ancienne copie d'écran, vous m'excuserez. Qui doit rassembler les ressources au niveau international sur l'information literacy, ressources pédagogiques, rapports, recherches et tout ça. Donc c'est vrai que nous, on se disait, bon, ben, il y a ça, pourquoi continuer sur Formiste ? C'est un peu différent. Un autre acteur important, le RTE, de la recherche vraiment, qui va associer donc, les documentalistes et les bibliothécaires. C'est vraiment des enseignants-chercheurs qui travaillent sur culture informationnelle et curriculum documentaire. Mais c'est du primaire à l'université. Enfin, c'est tout le panorama qui est abordé à travers eux. Donc c'est vraiment un objet de recherche. Ils ont fait un colloque en 2008, qui va peut-être faire un tournant au niveau historique, enfin au niveau de mes dates à moi en tout cas. Et ils rassemblent ce que j'ai appelé la translittératie, enfin c'est pas moins que moi qui ai appelé ça, mais moi j'aime bien utiliser ce terme. C'est trois littératies qui sont l'éducation à l'information, l'information literacy, l'éducation aux médias, média literacy, et l'éducation aux TIS, aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Ces trois éducations sont rassemblées lors de ce colloque, et on voit vraiment qu'elles se parlent beaucoup plus qu'avant. Sheila Weber, qui travaille beaucoup sur l'information literacy, intervient dans ce colloque et signale que le sujet information literacy semble devenir une discipline universitaire. Elle signale que les 7 critères qui montrent qu'un sujet devient une discipline universitaire, et à ce moment-là, il y en a 6 qui sont rassemblés, c'est-à-dire il y a le vocabulaire, les associations, les journées professionnelles, une communauté internationale, les départements universitaires, il n'y en avait pas à l'époque, je n'ai pas regardé s'il y en a maintenant, c'est le seul critère qu'il n'y avait pas, des étudiants diplômés, un langage spécialisé, un jargon sur le domaine, et des bases bibliographiques. Donc pour elle, ça devenait vraiment une discipline. Donc le colloque. Colloque, j'ai donné une publication à l'ENSIB, hein, aux presses de l'ENSIB. Hein. Vous pouvez retrouver tout à l'heure, clin d'œil. Année 2010, alors avant de passer aux années 2008, on va dire plus exactement, pas de grand oubli. sur les années 2000. Ça vous semble faire un bon panorama? Ça semble. Je regarde le temps, je ne sois pas trop bavarde, je suis un peu bavarde. Je vais aller un peu vite. Donc les années 2008-2010, c'est le développement des réseaux sociaux qui vont simplifier la création. Alors les blogs, les wikis, les RSS, ça simplifie la création des sites web, la diffusion d'informations, la veille. L'accès à l'information se transforme. On parle d'informations liquides. La veille simplifiée par le RSS, les réseaux sociaux, Google, c'est pas un réseau social, il y a le Google Plus quand même, Facebook, qui se crée en 2004 et ouvre au public en 2006, Twitter en 2006 aussi. Simplement, je rappelle à ce moment l'échelle des contributions, on parle de réseau social, de mutualisation, vous la connaissez peut-être, je l'ai reprise sur le blog d'Affordance, hein, qui la signale bien. L'échelle des contributions, c'est-à-dire que sur le web, il y a, en haut, c'est les créateurs, en bas, c'est les inactifs ou les spectateurs, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de gens qui regardent les sites que de gens qui les créent et qui créent de l'information. L'échelle, ça c'est la dernière, je crois, c'est la version 2010, il y avait beaucoup moins de créateurs avant. Hein. On est sur des sites de partage d'informations, comme SlideShare, ce qui fait que les ressources pédagogiques se multiplient avec ces facilités de création et se diffusent partout, et c'est impossible de toutes les recenser. Je vous rappelle que les annuaires de recherche, avant on avait les annuaires et les moteurs de recherche, il y avait Yahoo et Google pour schématiser, les annuaires n'existent plus, c'est impossible de recenser de manière humaine l'ensemble des sites web ou des ressources. Ils se sont tous transformés quasiment en moteur. Et pour les ressources pédagogiques, c'est la même chose. C'est difficile de les recenser. On parle beaucoup de mutualisation, de dissémination, d'agrégation, de curation, de mind mapping, de veille. Voilà, un peu c'est toutes les évolutions. Donc on peut dire que c'est facile de retrouver des ressources plus nombreuses, même s'il y en a certaines qui disparaissent dans ce que j'appelle un peu les trous noirs des ENT, donc ils sont simplement utilisables par les étudiants de l'université avec leur code d'accès. Les autres ne peuvent pas y accéder. Donc on croit que tout est accessible, ce n'est pas vrai. Il y a de plus en plus de trous noirs. Même Facebook, je trouve que c'est un réseau privé, un Internet privé, parce que vous recomposez votre Internet d'une certaine manière sur Facebook, parce que ne peuvent y aller que ceux qui sont inscrits. Les autres n'y vont pas. Alors les étudiants deviennent des digital natives, hein, on utilise beaucoup le terme, la génération Y. C'est vrai qu'il y a une mutation en cours, Inès, la souris à la main, l'ordinateur sur les genoux, une atrophie du pouce, enfin une hypertrophie du pouce, parce que les mobiles, hein, ça fonctionne bien. Il y a une vraie modification des étudiants. Je ne sais pas à quoi ils vont ressembler bientôt. Hein. Au niveau équipement, donc les portables, les iPhones, tout ça, c'est des étudiants mobiles, nomades, oui, il n'y a pas que les étudiants, je vois Françoise qui regarde le sien, nous aussi on est mobile maintenant, on consulte la formation de n'importe où, donc nous dans la formation ça modifie les choses parce que ils n'ont plus les mêmes manières d'approcher, ils sont directement avec leur ordinateur, on ne peut plus travailler exactement de la même manière. Vous le savez beaucoup mieux que moi, vous qui êtes directement avec eux, en face de vous, à côté de vous. Dans les univers, alors les étudiants, voilà, un rapport qui était sorti en 2008, on peut se dire que l'étudiant il ressemble un peu à ça maintenant, il est un petit peu perdu, happé, attiré par tous les réseaux. Hein. C'est quand même aussi les années modification, donc la LRU dès 2007, c'est le début de la LRU, donc des modifications, le plan pour la réussite en licence, les opérations campus, la création des presses, beaucoup de modifications des acteurs institutionnels de l'université elle-même, les impacts sur l'information, donc j'attends un peu de voir ce que dira peut-être Pierre-Yves avec la commission des BIT, en parlera peut-être un peu, et les retours aussi de cet après-midi pour voir un peu concrètement aussi ce qu'on peut en dire. Côté des bibliothèques, une évolution, donc on a une disparition progressive des étapes traditionnelles qu'on nous avait bien appris, identification, localisation, consultation. Maintenant l'étudiant il va sur Google, il trouve son texte. Et c'est difficile de lui faire comprendre qu'on peut faire que c'est autrement, etc. Donc les ressources se sont modifiées elles-mêmes. Hein. Les accès sont tous un peu différents. les services se modifient, donc on est encore plus vers les services. Les questions en ligne, les services de questions en ligne se développent, par exemple UBIB, Biblio Sésame à la BPI. Les bibliothèques se transforment aussi, puisqu'on a cette évolution vers ce qu'on appelle les Learning Centers. Donc ça, c'est le fameux Rolex Learning Center qui ouvre en février 2010, deux ans. Un étudiant du Learning Center. J'ai une autre photo d'un étudiant du Learning Center, mais elle est un peu trop floue. Sinon, c'est un étudiant qui est vautré sur un pouf comme ça en train de dormir. Donc voilà, les étudiants, les bibliothèques changent aussi. Mais on reparle encore d'électronisme. On reparle à nouveau de la fracture numérique. Elle existe toujours. Hein. C'est pas, on va pas se dire qu'ils savent tout. Ça s'est modifié. Non, on va rester là. On a donc dans les formations des modifications, puisque les technologies ont changé, les habitudes des étudiants ont changé. Alors je pense qu'on est quand même toujours sur les bases, donc les formations, la bibliothèque elle-même, le catalogue, l'accès aux ressources. On fait aussi des formations sur la veille, sur la production de contenu dans certains cas, mais ça va dépendre encore des étudiants. On revient aussi vers une formation aux étudiants avancés. Beaucoup plus, j'ai l'impression que c'est reparti vers la formation, vers les doctorants. Donc on voit qu'il y a un recommencement, que les questions reviennent, enfin on retourne à la même chose d'une certaine manière, mais certains points se sont déplacés. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres modifications à signaler, parce que j'ai sûrement oublié plein de choses.